Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. Comment ne pas ouvrir ce journal sans évoquer l'héritage économique de Valéry Giscard d'Estaing? Sa présidence en 1974 s'ouvre alors que la France, elle ne le sait pas encore, arrive au bout d'un cycle historique d'expansion. Les fameuses 30 glorieuses. En 1974, la croissance française tourne encore à 3% par an, c'est le plein emploi. La France se voit tout près alors d'être la première économie européenne, mais déjà des signes apparaissent. L'inflation, le commerce extérieur qui ralentit, les effets aussi du choc pétrolier. Le baril de pétrole est alors à plus de 11 dollars en 1974. On n'avait jamais vu ça. Et cela guidera le tournant vers le nucléaire, le plan Messmer et la construction des 13 premiers réacteurs français. Giscard, c'est aussi le TGV. Et un taux de chômage qui va doubler en 7 ans également. Alors que retenir rétrospectivement de la politique économique de Valéry Giscard d'Estaing? Écoutez, Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'Épargne, il a débuté sa carrière auprès de VGE. À l'époque, il était l'un de ses proches collaborateurs.
Le président Giscard d'Estaing a, durant son septennat, pris des mesures de libéralisation. Libéralisation des prix, il faut savoir que les prix étaient fixés jusque dans les années 70 par le gouvernement, par l'État. Il a pris également des libéralisations sur le financement du crédit. Il y avait des autorisations administratives pour faire du crédit. Ça paraît aujourd'hui complètement surréaliste. Donc ça, ce sont deux grandes avancées qui ont été engagées par le président Giscard d'Estaing pour casser, on va dire, le système inflationniste en France. Mais je dirais que vraiment, ces acquis, c'est le système monétaire européen. C'est également une concertation au niveau international. On a parlé du G7, du G20 dernièrement. Le président Giscard d'Estaing en est à l'origine avec la création à l'époque de ce qui était le G5. C'était la première réunion des chefs d'État au niveau le plus haut pour régler les problèmes économiques.
Le directeur du Cercle de l'Épargne, Philippe Crevel. Dans l'actualité ce matin, c'est aussi l'INSEE. Dans sa dernière note de conjoncture parue hier, l'Institut de la Statistique voit encore l'activité en décembre 8% en dessous de son niveau d'avant-crise. On était à moins 12 en novembre. Alors c'était tout de même beaucoup mieux que lors du premier confinement. Beaucoup de secteurs en effet ont continué à tourner. On pense notamment aux bâtiments. Et à l'INSEE, en revanche, ne voit pas la consommation repartir ce mois-ci aussi vigoureusement qu'au mois de juin. Au 31 décembre, la contraction du PIB au quatrième trimestre devrait atteindre 4,5%. Ce sera moins 9 sur l'ensemble de l'année. C'était une épine dans le pied des secteurs ayant eu le plus recours au chômage partiel. Comment écouler l'énorme stock de congés payés accumulés par les salariés depuis mars? Eh bien, les employeurs ont trouvé un accord hier soir avec le gouvernement. Celui-ci va prendre en charge 10 jours de congés payés. Bonjour Céline Cajoulis.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors on note tout de même que les critères d'éligibilité sont très élevés.
Oui, car ce mécanisme concerne tous les restaurants, mais aussi les hôtels fermés au moins 140 jours et dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 90%. C'est le cas par exemple des trois quarts des établissements parisiens ayant fait le choix de ne pas ouvrir plutôt que d'avoir des clients et de perdre de l'argent. C'était un point non négociable pour l'UMI qui ne voulait pas d'une différence entre ceux qui n'ont pas eu d'autre choix que de fermer et ceux qui ont choisi de ne pas ouvrir. Ils vont donc pouvoir imposer 10 jours de congé à leurs salariés sur la période allant du 1er au 20 janvier 2021 avec, comme pour le chômage partiel, un reste à charge de 16%. Pour le gouvernement, c'est un geste qui va coûter entre 150 et 400 millions d'euros. Mais pour les restaurateurs et les hôteliers, c'est la garantie de débuter 2021 avec moins de jours de congé à payer. Et ça, c'est bon pour la trésorerie.
Merci Céline. Ça bouge aussi beaucoup sur le front des vaccins dans de nombreux pays. Les choses s'accélèrent, à commencer par le Royaume-Uni. Le premier État au monde a autorisé hier le vaccin allemand de Pfizer-BioNTech. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Allez avec vous, un petit tour du monde des annonces faites hier. Point de départ donc le Royaume-Uni, où d'après Londres, s'ils partent les premiers, les Anglais, eh bien c'est grâce au Brexit.
Voilà, c'est ce qu'a affirmé hier le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. Selon lui, le fait de se passer de l'autorisation de l'Agence européenne du médicament a permis d'accélérer la mise à disposition du vaccin au Royaume-Uni, des propos que le régulateur national a tout de même tenu à nuancer. En tout cas, le vaccin sera disponible outre-Manche à partir de la semaine prochaine. En France, à la mi-décembre, 3 essais de vaccins seront organisés. 2200 volontaires ont été recrutés. Alors, il ne s'agit pas d'évaluer l'efficacité du vaccin à grande échelle, mais d'examiner de façon beaucoup plus fine, sur des critères ciblés, la réponse immunitaire qu'il provoque. Jean Castex doit préciser en fin de journée les contours du plan de vaccination. vaccination. En Russie, Vladimir Poutine a demandé hier aux autorités sanitaires du pays de commencer les vaccinations à grande échelle dès la semaine prochaine. Une annonce faite alors que la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40 000 volontaires n'est pas encore terminée. Le Japon et l'Italie ont fait le choix de la gratuité du vaccin. En Allemagne, une soixantaine de centres de vaccination devraient ouvrir rapidement dans les casernes et les enceintes sportives. Enfin, notez que l'OMS s'inquiète des vues du crime organisé sur les vaccins. Des cyberattaques nord-coréennes ont été détectées. Certains laboratoires ont indiqué qu'ils étaient conscients de cette menace et travaillent en coordination avec des agences gouvernementales et des experts en cybersécurité.
Merci Eric Mauban. J'en profite pour vous rappeler qu'à 7h15, le président d'AstraZeneca France, Olivier Nataf, sera mon invité. En bref, premier vol cette nuit depuis 20 mois pour le 737 MAX à bord de l'appareil affrété par American Airlines, uniquement des journalistes. C'était un vol promotionnel pour tenter de dissiper les craintes du grand public sur l'appareil dont l'interdiction de vol vient d'être levée aux États-Unis. La SNCF dans le rouge, écarlate pour 2020. Son PDG, Jean-Pierre Farandou, anticipe près de 5 milliards d'euros de pertes, principalement à cause du TGV dont la fréquentation actuellement est inférieure à 15%. La SNCF réfléchit à introduire, je cite, une espèce de prix psychologique maximum afin de casser l'idée du TGV cher. Enfin, à l'étranger, que va faire Joe Biden à son arrivée à la Maison-Blanche? Dans une interview au New York Times hier, il entend gérer l'héritage Trump, donc pas de levée immédiate des tarifs douaniers ciblant la Chine et même l'Union européenne, pas question non plus de casser l'accord commercial signé en janvier avec Pékin, ni de signer de nouveaux accords d'ailleurs. On imagine la déception des Britanniques. Les marchés pour finir, le CAC étale hier soir, plus 0,02%, 5 583 points. À Wall Street, le Dow Jones, plus 0,2%, 29 880.